Chapitre 6. Tu as eu beaucoup de chance, Alice. Benjamin Wells est assis dans la chambre de son ami hospitalisé. La balle t'a à peine éraflé la peau de l'épaule et on a pu maîtriser ton agresseur à temps avant qu'il fasse encore feu. La jeune femme aux yeux verts se lève, vérifie que le pansement est bien positionné sur son épaule, puis elle enfile une chemise, une veste et termine par une paire de bottines beige. Maintenant, le mieux est que tu te fasses oublier quelque temps, déclare Benjamin Wells. Alice finit de ranger ses affaires, puis tous deux quittent la chambre et longent les couloirs de l'hôpital, où ils croisent soignants, malades et blessés. À l'extérieur du bâtiment, des manifestants sont regroupés, arborant des pancartes sur lesquelles sont inscrits des messages. « L'humanité n'a pas besoin d'être diversifiée. Nos impôts ne doivent pas payer des expériences pour nous remplacer par des monstres. Non au délire des savants fous. » Les participants répètent leur slogan en boucle. « Caméreur, t'es averti, c'est fini, t'es connerie !» Une haie de policiers les contient, mais des œufs volent en direction de la scientifique et du ministre. Benjamin Wells utilise sa sacoche en cuir comme un bouclier qu'il positionne à la hauteur de sa tête et aide Alice à rejoindre une voiture du ministère. Un œuf s'écrase sur la vitre de la portière du véhicule, juste après que la jeune femme l'a claqué. Le chauffeur démarre et dépasse le groupe de manifestants de plus en plus agressifs. Il roule. « Et toi, Benjamin, pourquoi me soutiens-tu ? » « C'est vrai, j'ai toujours été à tes côtés, c'est une sorte d'habitude, » répond-il en souriant. « Souviens-toi, déjà au lycée, on s'entraidait souvent. Peut-être parce que nous avons un point commun, le poids de nos ancêtres. Mon arrière-grand-père était Edmund Wells, spécialiste des fourmis, et le tien, Paul Kammerer, spécialiste des crapauds. Deux savants qui ont finalement observé la nature, qui ont fait des découvertes remarquables, qui ont essayé de les transmettre et qui finalement ont tous deux très mal fini. Ont dû affronter l'étroitesse d'esprit de leurs contemporains, plutôt. Nuance Benjamin. En tout cas, nous avons toi et moi des racines qui se ressemblent et depuis notre plus jeune âge, nous subissons la pression de nos illustres ancêtres pionniers. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents anonymes, plaisante Alice. C'est une lourde charge de devoir se montrer à la hauteur de son héritage familial. Je reconnais que Paul Kammerer a toujours été un phare pour moi, dit Alice après un silence. Lui aussi, à l'époque, luttait contre l'obscurantisme de certains de ses pairs. Edmund Wells a aussi été un phare pour moi. Quand j'ai lu l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'ai compris que, grâce à l'observation des fourmis, on pouvait avoir des idées sur notre espèce et dégager des perspectives nouvelles. Mon ancêtre avait déduit que l'évolution de l'humanité se ferait selon trois tendances. Plus petit, plus féminin, plus solidaire. Alice observe Benjamin et se dit que, avec cette tête triangulaire et ses grands yeux noirs, il a lui-même une tête de fourmi. Reste à savoir si c'est parce qu'il ressemble à des fourmis que les Wells s'y intéressent, ou si c'est parce qu'ils s'y intéressent qu'ils ont fini par leur ressembler. Le jeune homme poursuit. Et dans ta famille comme dans la mienne, les descendants de ces grands hommes de science ont prolongé leur travail. C'est le cas en particulier de mon père, David Wells. Et maintenant, c'est toi, Benjamin, qui continue cette encyclopédie, n'est-ce pas ? Disons que c'est un passe-temps héréditaire, réunir, comprendre et diffuser la connaissance. Quel genre de connaissance y a-t-il dans cette encyclopédie du savoir relatif et absolu ? Tiens, ça t'intéresse maintenant ? S'amuse Benjamin. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet à la fac, tu levais les yeux au ciel et changeais de conversation. Vu les circonstances, il est peut-être temps que je fasse un effort, répond-elle avec un clin d'œil complice. Puisque tu insistes, disons qu'elle traite de tout, des informations scientifiques et historiques, des anecdotes marrantes, mais aussi des recettes de cuisine ou des énigmes bizarres. Quel genre d'énigme ? Wells réfléchit. Il y a cette charade, par exemple. Elle est attribuée à Victor Hugo. Au premier abord, elle peut paraître enfantine, mais elle donne à réfléchir, tu vas voir. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Et mon troisième est au café. Mon tout est une pâtisserie. Elle cherche. Bavard ? Je sais pas. On dit que la pie est bavarde. Et c'est un oiseau. Je sèche. Donne-moi au moins un indice. Mon indice est que c'est ultra facile à trouver. C'est ça, ton indice ? S'exclame Alice, l'air faussement offensé. Oui, en fait, je peux même aller plus loin. On ne trouve pas parce que c'est trop facile. Ok, c'est bon, donne-moi la solution. Ce sera bien plus amusant si tu trouves toute seule, et je suis sûre que tu vas y arriver. La jeune femme n'insiste pas. Elle hausse les épaules, puis renonce, une moue boudeuse sur les lèvres. Benjamin Wells sourit. Et dire que tout a commencé entre nous par une amitié de lycée. Ensuite, nos chemins se sont séparés, mais nous ne nous sommes jamais vraiment perdus de vue. Tu es devenue chercheuse, et je suis devenu politicien. Ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un simple politicien. Je ne suis pas dupe, Alice. Nous, les politiciens, nous serons oubliés par l'histoire. Seuls les présidents qui font la guerre resteront dans les annales. En revanche, on se souviendra des scientifiques avec des projets novateurs comme le tien, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent. Voilà peut-être la raison plus personnelle pour laquelle je t'ai soutenue dans ton projet Métamorphosis, outre le fait que je le trouve merveilleusement pertinent. Je conserve une chance de laisser une trace de ma présence sur Terre en tant que mécène de ton œuvre. Tu as fait plus que me soutenir, tu m'as inspirée, réplique Alice. Rappelle-toi, au début, mon idée était seulement de mettre au point un hybride capable de voler de ses propres ailes. C'est toi qui m'as conseillé de créer 3 spécimens différents, chacun adapté à un milieu bien précis, l'air, l'eau, la terre. C'est toi qui m'as dit, tant qu'à faire, il faut prévoir une espèce pour chaque type de grande catastrophe écologique. C'était l'idée de mon père, David, pas la mienne. Il a eu la même intuition que toi sur la nécessité de modifier le corps humain pour parer à toute éventualité. Tu es trop modeste, Benjamin. C'est toi qui m'as donné l'idée des diggers et des nautix, en plus de mes aérials. Et je t'en remercie. C'est même toi qui m'as dit de leur attribuer des noms anglais pour que mon invention passe les frontières. Dehors, il se met à pleuvoir. Sur la vitre, les traces d'œufs disparaissent peu à peu. Les essuie-glaces vont et viennent. Le son produit est semblable à celui d'un cœur qui bat. Et puis tu m'as fait le plus beau des cadeaux ? Reprend-elle. Tu m'as donné l'autorisation et les moyens de travailler seule et non pas en équipe. Je n'ai pas eu à supporter le poids de la hiérarchie et les rivalités qui gangrènent tous les groupes de chercheurs. Il hausse les épaules. Toi, tu travailles seule, mais pas moi. J'ai des comptes à rendre. Le président Légitimus m'a dit hier soir, je ne veux pas de problème avec tes projets bizarres. La campagne pour son éventuelle réélection approche et ton impopularité dans les médias lui fait craindre pour son image. Il ne voudrait pas baisser dans les sondages. Or, la plupart des gens estiment que tu vas détruire l'humanité avec l'argent du contribuable. Wells soupire. Il m'a d'ailleurs demandé un point sur les avancées de ton projet très controversé. Justement, Benjamin, j'avance. Il faut juste me laisser du temps. Tu seras le premier prévenu dès que je penserai que c'est présentable. Le ton du ministre change soudain. Tu ne m'as pas compris. Après cet incident, nous n'avons plus de temps. Il faut que je visite ton labo de toute urgence pour pouvoir expliquer au président Légitimus où tu en es. C'est trop tôt, lâche Alice. Si tu ne me laisses pas voir, je ne pourrai pas continuer à te financer. Elle le regarde droit dans les yeux. Tu me menaces ? Il soutient son regard. Elle souffle bruyamment, agacée, puis détourne la tête. Comme tu voudras. Viens, puisque c'est toi qui paies. Mais je t'avertis, ça ne va pas te plaire. Au Muséum d'Histoire Naturelle, s'il vous plaît, lance le ministre à son chauffeur. Les rues parisiennes, mouillées par la pluie, défilent derrière la vitre. Tout en regardant ce paysage urbain, Alice soupire. « Ça ne va pas te plaire du tout. »